Alors je reviens au dieu de l'islam. Le dieu du Coran se définit par des expressions typiques comme inconnaissable, inaccessible, impénétrable. Inconnaissable, inaccessible, impénétrable. Ce sont des formules imagées mais explicites. Alors on peut dire, mais pour les chrétiens aussi, Dieu n'est pas connaissable, il est inaccessible, il est impénétrable. Ce n'est pas tout à fait juste. Bien sûr, Dieu est tout autre. Il dépasse notre entendement et il est mystère, bien entendu. Mais il n'est ni inconnaissable, ni inaccessible, ni impénétrable. On peut dire qu'il est indicible. Le mystère est toujours indicible. On ne peut pas le décortiquer de manière scientifique. C'est ce que je veux dire quand je dis que le mystère de Dieu est indicible. Mais Dieu, dans la révélation biblique, a voulu se faire connaître aux hommes. Donc il n'est pas inconnaissable. On le connaît par Jésus-Christ. Dans son dernier livre sur Jésus de Nazareth, le pape Benoît XVI a une très belle formule. Il dit « Jésus est venu nous apporter Dieu ». Jésus est venu nous apporter Dieu. Et dans un autre document, je crois que c'est dans l'encyclique Caritas in Veritate, l'encyclique du pape Benoît XVI, le pape dit « Le christianisme est la religion du Dieu à visage humain ». Donc on peut voir Dieu par Jésus, on peut le connaître, on peut accéder à lui et on peut vivre dans la communion avec lui. C'est extraordinaire. Toute chose que l'islam ne permet pas. On peut renvoyer aussi à Jésus qui, dans l'évangile selon saint Jean, dit « Qui me voit, voit le Père ». Jésus, donc, est le visage du Père. Le Dieu du Coran est un Dieu transcendant et seulement transcendant. Dans le Coran, on peut lire ceci, c'est le musulman qui parle, s'adressant à Dieu en lui disant « Gloire à toi, ô Dieu, dans ta transcendance ». C'est la sourate 10, verset 10. Alors la question du Dieu trinitaire, évidemment, c'est une pierre d'achoppement dans le dialogue avec les musulmans. C'est une accusation très forte qu'il nous adresse d'être des associationnistes. Alors comment leur expliquer le mystère de Dieu? Ce n'est pas facile, c'est très délicat, bien entendu. Mais je vais vous raconter une réponse qui m'a été fournie par un ancien musulman devenu chrétien. Et je pense que ça peut aider, ça peut servir dans la conversation avec les musulmans. Ce Marocain, devenu chrétien, il avait le désir de parler du Dieu trinitaire auquel il adhérait désormais, de manière à inviter le plus grand nombre de ses anciens co-religionnaires à le suivre dans la foi en ce Dieu trinitaire. Alors il a imaginé un moyen. Il a imaginé de présenter la Trinité sous forme de multiplication. Parce que souvent les musulmans, moi ça m'est arrivé, ils nous disent: vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, donc ça fait 1 plus 1 plus 1 égale 3. Donc vous croyez bien, vous êtes des trithéistes, etc. Alors c'est vrai. Alors grâce à ce Marocain, maintenant, on peut présenter la Trinité sous forme de multiplication. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 égale 1, bien entendu. C'est plus conforme, vous voyez, à notre foi dans le Dieu trinitaire. Et quand ce Marocain m'a donné cette formule, j'ai réagi intérieurement en me disant « Ah oui, c'est une très bonne idée. » Et en plus, la multiplication, contrairement à l'addition, elle évoque une notion de plénitude, de surabondance. Et la multiplication, c'est à l'infini. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 égale 1. Ça montre bien que les chrétiens sont d'authentiques monothéistes. On pourrait prendre aussi une analogie, une image proposée par Saint Vincent de Paul. Pour présenter la Trinité, Saint Vincent de Paul a eu beaucoup de contacts avec des musulmans en Afrique du Nord. Et il proposait d'utiliser cette image-là, le soleil, la lumière et la chaleur. Ce sont trois entités distinctes, mais indissociables les unes des autres. Le soleil, qui pourrait être le Dieu Père, par exemple, la lumière, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et la chaleur, le Saint-Esprit. Ce sont des suggestions. Hein. Alors donc, je vous disais, le Dieu du Coran est un Dieu transcendant, d'une transcendance absolue, qui exclut toute notion d'immanence. Le Dieu des chrétiens est un Dieu transcendant et immanent à la fois. Il y a les deux dimensions. Immanent, donc transcendant, c'est donc étranger, totalement étranger à l'homme, et immanent, c'est celui qui se fait proche de l'homme. Pour nous, nous croyons en un Dieu qui est Père, donc il est proche de nous, et le Dieu Fils, qui est l'incarnation, donc Dieu a voulu se faire notre frère aussi. Mais les musulmans, donc, à cause de cette notion de transcendance absolue, ignorent la paternité de Dieu. Le Dieu du Coran n'est pas un Dieu père. L'idée que Dieu pourrait être un Dieu père, c'est une notion qui évoque de l'anthropomorphisme, et il n'est pas permis de donner à Dieu, d'attribuer à Dieu des éléments d'anthropomorphisme qui feraient de lui un homme, si vous voulez. Par exemple, je vais vous aider à mieux comprendre peut-être, dans le Coran, mais là je n'ai pas la référence, à un moment donné, le Coran raconte la création. Et nous, dans la Bible, dans le récit de la création, nous voyons ceci, Dieu vit que cela était bon et il s'est reposé le septième jour. Alors le Coran riposte en disant, Dieu ne se repose pas puisqu'il n'est pas fatigué. Vous voyez, ça c'est de l'anthropomorphisme. Voilà. Et l'idée que Dieu puisse être père, c'est dans la même logique. L'idée que Dieu pourrait être immanent, du point de vue musulman, c'est contraire à la grandeur de Dieu. Alors, il faut savoir aussi que quand des chrétiens parlent à des musulmans de la paternité divine, les musulmans comprennent cette paternité comme biologique. La notion de génération spirituelle n'existe pas dans l'islam. C'est pourquoi, j'anticipe un peu là, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vie consacrée. L'engendrement ne peut être que biologique, charnel, si vous voulez. Le Coran nie l'engendrement de la part de Dieu. Je vous cite un verset. C'est un Dieu qui parle, dit, D-I-S, un ordre donc, dit deux points, lui, Dieu est un, Dieu de plénitude, il n'engendre pas, il n'est pas engendré, nul n'est égal à lui. Sourate 112, verset 3. Et par ailleurs, dans 17 versets, Dieu répète qu'il ne lui est pas possible de se prendre un enfant fils. Par exemple, sourate 19, verset 35, ou bien encore sourate 10, verset 68, sourate 25, verset 2. Voilà, je vous cite aussi le verset de la 30 de la sourate 9, donc 9,30, qui accuse les chrétiens. Les chrétiens ont dit, deux points, Le Messie, c'est Jésus, mais je vous en reparlerai après, du sens du mot Messie dans l'islam. Le Messie est fils de Dieu. Telle est la parole qui sort de leur bouche. Ils répètent ce que les incrédules disaient avant eux, que Dieu les anéantisse. C'est rude. Ils sont tellement stupides, les chrétiens. Sourate 9, verset 30. Ben oui. Donc, l'idée que Dieu et père, pour les musulmans, ça veut dire, et qu'il a un fils, ça veut dire évidemment qu'il a besoin de prendre une épouse. Cette épouse, c'est Marie. Du point de vue musulman, c'est un scandale. Mais de notre point de vue aussi, bien entendu, mais nous ne croyons pas que Dieu a une épouse. Nous savons que, nous les chrétiens, nous savons que la filiation divine de Jésus n'est pas une affaire génitale, mais une relation intime à Dieu. L'engendrement se fait en Dieu, et non hors de Dieu. Parce qu'effectivement, si l'engendrement se faisait hors de Dieu, il faudrait l'union de Dieu avec une déesse. Là, pour nous, il s'agit de Dieu qui communique sa propre substance à son fils Jésus. C'est pourquoi donc l'engendrement se fait en Dieu. Pour nous chrétiens, Jésus n'est pas une créature, il est l'unique engendré, non pas dans le temps, mais avant les siècles, dans l'éternité de Dieu. Et dans le credo, au sujet de Jésus, nous disons « engendré, non pas créé ». Engendré en Dieu, donc.